Au menu de notre club, aujourd'hui des scientifiques artistes avec un rendez-vous art et science et puis deux astronautes, l'un américain, l'autre français. Ils ont d'ailleurs partagé un voyage dans l'espace ensemble. Je vous présente mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science, aujourd'hui l'eau qui ne cesse de monter dans les fleuves français.
Oui, la Seine, la Marne, le Doubs, l'Yonne sont en crue et la décrue sera longue et coûtera cher. On fait le point sur la situation avec la géographe Magali Reghezza.
Et Céline Ila est aux commandes de ce club qui a été préparé aujourd'hui par Chantal Le Montagny avec Thomas Kalevitch.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Villard. Sur France Inter.
Voilà, art et science et astronaute dans notre club cet après-midi avec mes invités que je salue, Scott Kelly, Jean-François Clairvoix, nous avons également avec nous Jean-Marc Chomaz et Samuel Bianchini. Bonjour à tous les quatre. Hello, Scott Kelly. Welcome. Hello. Bienvenue, vous êtes l'astronaute américain qui a passé la plus longue période en continu dans l'espace, hein, 340 jours dans l'ISS, c'était il n'y a pas si longtemps, entre 2015 et 2016. Vous avez également un jumeau qui lui aussi est astronaute. Alors au-delà de vos voyages dans l'espace, vous êtes un véritable objet pour la science aujourd'hui ?
Well, maybe some scientists.
Oui, il y a certains scientifiques qui s'intéressent à moi, oui.
Vous avez dit que vous alliez jusqu'à la fin de votre vie, justement, prêter votre corps à la science.
Yeah, absolutely. That's, you know, I think part of the,
mais oui,
part of the agreement when you become an astronaut.
Ça fait partie du contrat que l'on signe quand on devient astronaute. On fait partie de toutes ces expériences scientifiques et on s'y prête volontiers. Alors, j'ai passé un an dans l'espace et ça m'a donné de l'importance du point de vue scientifique, mais tous les astronautes, y compris Jean-François Clairvoix, ici présent, font partie d'une étude longitudinale que mènent les chercheurs pour comprendre les impacts que cela peut avoir sur notre organisme.
Et Jean-François Clairvoix, qui nous a fait l'amitié de venir également pour retrouver son vieux copain Scott Kelly, finalement, Jean-François, c'est ça, hein ?
Ah oui, et puis un souvenir, puisque lors de mon troisième vol spatial, Scott effectuait son premier vol. Et c'était le seul bleu dans l'équipage. Donc on a beaucoup de souvenirs, des blagues. Quelques heures après le décollage, je lui ai caché tous ses slips. Déjà,
ah, vous êtes comme ça, c'est très rigolo. Ça, hein, voilà.
Mais c'est vengé à la fin.
Bon, ben ça va. On a plein d'histoires à se raconter. Donc, dans un instant, Scott Kelly qui publie Mon Odyssée dans l'espace aux éditions Les Arènes. On en parlera tout à l'heure. Jean-Marc Chomaz et Samuel Bianchini, vous êtes tous les deux les deux scientifiques et artistes invités de l'émission. Vous allez nous présenter ce rendez-vous qui aura lieu le week-end prochain à la Cité internationale des arts à Paris. Son titre, Nous ne sommes pas le nombre que nous croyons être. Le titre est pour le moins énigmatique. Jean-Marc Chomaz.
Oui, c'est un titre qui est tiré en fait de livres de Bruno Latour. C'est un clin d'œil et c'est pour dire que dans tous les enjeux contemporains, il faut tous qu'on s'embarque dans la solution de cet enjeu-là. Mmh. Et on se rend compte qu'on est beaucoup plus nombreux que ce qu'on pense être et il faut que tout le monde s'y mette.
Avec ce rendez-vous donc qui aura lieu le week-end prochain, Samuel Bianchini, et qui s'inscrit d'ailleurs dans le cadre d'une chaire art et sciences qui existe depuis un an. C'est assez unique en son genre, non ?
Oui, on peut dire que c'est la première en Europe. C'est une chaire qu'on a montée avec la fondation Daniel et Nina Carasso, donc l'école polytechnique et l'école nationale supérieure des arts décoratifs qui fait partie de l'université PSL.
On verra avec vous ensemble dans quelques minutes pourquoi c'est aussi important de faire appel aux arts pour parler de science. Et puis on recevra également les messages des auditeurs qui nous rejoignent pour réagir à tous ces sujets sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Voilà la Seine qui devrait atteindre un peu moins de 6 mètres maintenant selon les dernières informations avant d'entamer donc une décrue longue et difficile. On fait le point justement sur ce nouvel épisode des crues parisiennes mais aussi ailleurs en France à la une aujourd'hui.
Le bruit que vous entendez en ce moment, c'est le bruit même que fait la Seine au pont de l'Alma. La Seine et toutes les voies de communication fluviale sont depuis quelques jours en crue. La Seine, le 22 novembre, atteint la cote de 2,96 m. Le 27, 4,54 m. La route du charbon est coupée, les péniches ne peuvent plus passer sous les ponts. Le 28, 4,69 m. Les quais et les grues sont inutilisables. Le 29, 4,90 m. Certaines voies ferrées, comme celle des Invalides, sont partiellement couvertes et les trains ne peuvent plus rouler. Hier, 4 décembre, la Seine atteint 6,15 m. Elle a franchi les berges. C'est la première fois depuis 1924 qu'elle est aussi grosse.
Voilà, ça c'était en 1944, la Seine, la Marne, le Doubs, le Rhin aujourd'hui, qui sont à des niveaux très hauts, plusieurs inondations sont en cours, vous le savez, en Ile-de-France, l'eau va continuer à monter, au moins jusqu'à demain, les sols gorgés d'eau après un mois de décembre très pluvieux, n'épongent pas assez vite visiblement, et les prochaines semaines vont être sous haute surveillance. On fait le point sur ces crues et leurs conséquences avec notre invité Axel.
Oui Mathieu, nous recevons la géographe Magali Reguedza, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'ENS, chercheur au laboratoire de géographie physique de Meudon, spécialiste du risque naturel. Alors, 6 mètres 10 en 2016, presque 6 mètres prévus pour demain. Est-ce qu'il va falloir s'habituer à des crues importantes et régulières en Ile-de-France et à Paris ?
Alors, ça a été très irrégulier par le passé. Historiquement, c'est des crues qui reviennent assez régulièrement. Leur occurrence est à peu près, en moyenne, 20 ans. Donc, c'est 20-30 ans. Donc, c'est même pas des crues, pour Paris en tout cas, c'est même pas ce qu'on appelle des crues majeures, puisque les crues majeures dépassent 7 mètres au pont de Sterlitz et la crue Sandnal est à 8 mètres 62. Donc, on est sur des épisodes récurrents. S'habituer, c'est surtout qu'on a eu de la chance, parce que depuis 1955... on n'a plus de débordement dans Paris et depuis 82, on n'avait plus vu la Seine monter aussi haut.
Comment est-ce que sont établis les modèles de prévision pour les crues sur le long terme, les chiffres que vous nous donnez ?
Alors, c'est une combinaison entre des données qui sont fournies par Météo France, qui a profondément amélioré ses prévisions, et puis des modèles qui permettent en fait de prendre en compte la topographie des terrains, l'urbanisation. On inclut aussi des données historiques, et donc on arrive comme ça à anticiper ces inondations, mais comme on l'a vu là, on a une visibilité finalement assez courte, 48-72 heures. Donc là, les fourchettes qui ont été données, elles sont bonnes, ils attendaient un pic à 5,80-6,20, on est vraiment dans la fourchette. C'est très très compliqué à prévoir, c'est pas dû à l'incompétence des prévisionnistes, c'est simplement que structurellement c'est pas possible de prévoir ça.
Alors quels sont les départements où l'eau va continuer à monter ce week-end ?
Alors pour l'instant, donc l'eau monte sur certains affluents, en particulier sur les affluents comme la Marne. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des évacuations en Seine-et-Marne, on a des évacuations aussi dans le Val-de-Marne. On a aussi des cours d'eau plus proches de Paris qui sont en train de monter, hein, Lyon, des régions qui ont été aussi touchées en 2016 déjà. Donc c'est aussi dans la récurrence, c'est difficile pour les populations.
Au-delà de la région parisienne, d'autres régions de France aussi sont touchées en même temps.
Oui. Alors d'ailleurs, ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé en 1910. Il y a eu tout l'est de la France en réalité, puisque c'est les mêmes systèmes dépressionnaires qui touchent ces bassins. Le Rhin en 1910 était en crue centennale. Et puis on a le Jura.
En crue centennale en 1910.
Oui,
pourquoi on s'en souvient pas ?
Parce que l'Alsace était allemande. Et donc évidemment, on a perdu un petit peu la mémoire. Il y a des collègues qui sont en train de travailler là-dessus justement. Et puis on a le Jura et le Doubs aussi. C'est pas mal monté. Là, le Loiret est aussi en train d'avoir des crues. Donc voilà, c'est quand même une grande partie nord-nord-est qui est touchée. Et c'est pour ça que c'est préoccupant, c'est parce que ce sont de très vastes territoires.
Est-ce que les modèles de prévision sur des temps longs commencent à prendre en compte le changement climatique dans leurs réflexions, dans leurs données ?
Alors c'est extrêmement compliqué. On a pour l'instant très peu de certitudes. Les premières études semblent indiquer qu'on aurait moins de phénomènes, mais beaucoup plus intenses. Donc une irrégularité qui là aussi est problématique, parce qu'on va encore plus oublier qu'on est sous la menace de ce genre d'événements. Et quand ils vont arriver, ils seront probablement plus forts et peut-être un peu décalés dans le temps.
Hasard du calendrier, l'OCDE a remis mardi un rapport plutôt encourageant sur la gestion des crues en Ile-de-France. Est-ce qu'on le constate sur le terrain en ce moment, la situation est mieux maîtrisée qu'en 2016 par exemple ?
Alors ça dépend ce que vous appelez maîtriser. On a la chance d'avoir aujourd'hui des gens sur le terrain qui sont extrêmement compétents. Je pense aux pompiers, aux policiers, aux gendarmes, voilà. On a aussi dans les cellules de crise des gens qui ont été formés par l'exercice Sequana, par les événements récents. Maintenant, ce que rappelle l'OCDE, c'est qu'il y a encore énormément de progrès à faire. Il faut vraiment une collaboration renforcée entre les acteurs. Il faut vraiment aussi un portage politique qui fasse qu'on investisse enfin sur ces questions-là à la hauteur des enjeux.
Mais ça coûte moins cher d'investir au fond que de devoir payer plus tard des catastrophes majeures, non ?
Je vous donne un chiffre, une crue de la Seine équivalente à 1910 à Paris et dans la petite grande couronne, c'est 30 milliards d'euros immédiatement. Un exercice comme celui qu'on a fait en 2016, c'est 2 millions.
Ce qui est déjà une grosse différence. La décrue va commencer la semaine prochaine. Combien de temps ça va mettre ?
Ça va être long. Ça va être long et surtout là ce qui se passe c'est que les nappes sont montées et c'est pour ça que beaucoup de gens ont des caves qui sont inondées donc les nappes réagissent encore en décalé donc ça va être assez long. En plus s'il repleut ça risque de remonter parce que la Seine en réalité et les autres fleuves ont des pics multiples donc ça veut dire que les gens vont devoir attendre avant de pouvoir nettoyer, sécher et ensuite faire l'état des lieux des dommages. Il va falloir attendre pour chiffrer.
Est-ce qu'il y a des risques sanitaires particuliers en ce moment à Paris, en Île-de-France ?
Il faut faire très attention à deux choses. D'une part, le courant est fort, donc ne vous approchez pas du fleuve, faites attention, ne marchez pas dans les zones inondées parce que les plaques d'égout peuvent sauter, parce que là aussi le courant peut être fort. Deuxièmement, l'eau elle est sale, elle est polluée parce qu'elle passe sur des terrains qui sont contaminés par les voitures, par tout ce qu'il y a qui traîne dans les villes. Donc il vaut mieux pas la toucher. Et quand on va nettoyer les caves, quand on va nettoyer les déchets, faire très attention aussi, mettre des gants, mettre des masques. Normalement c'est prévu, mais beaucoup de particuliers vont vouloir aller vite. Il faut faire attention.
Cette crue de 1910, on l'attend, celle qui aura la même ampleur que 1910. Et pourtant, on semble ne pas vouloir ou ne pas savoir qu'elle va venir.
C'est tellement gros, c'est tellement loin, c'est tellement fou. Et puis voilà, on est sur la région capitale. Alors les gens se disent, mais toujours Paris, c'est les Parisiens, encore les Parisiens. Il faut quand même savoir que cet événement, s'il arrive un jour, ça va concerner l'ensemble des Français par effet domino. Donc il faut vraiment qu'on s'y prépare tous. Il n'y a pas que ces risques-là sur le territoire, hein, mais celui-là, c'est vraiment un risque important.
Mais il pourrait y avoir des crues centennales aussi ailleurs en France.
Hein, il y en a tout le temps. Enfin, tout le temps, il y en a régulièrement. La crue centennale, ça veut juste dire, c'est une chance sur 100 par an que ça arrive. 2 chances sur 3 sur une vie humaine moyenne, c'est-à-dire 80 ans.
Merci beaucoup Magali Reghezza pour ces informations. Axel, on se retrouve lundi.
À lundi.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la plus vieille preuve de la présence d'Homo sapiens hors d'Afrique. Des archéologues ont découvert en Israël un fragment de mâchoire datant de 180 000 ans, retrouvé sur le mont Carmel en 2001. Ces fossiles reculent la date de migration de l'homme moderne hors d'Afrique de 50 000 ans. Étudié pendant plusieurs années par 3 équipes différentes, il n'y a aucun doute possible concernant son origine et son âge. Pourtant, les experts, cela indique selon eux que les périodes d'interaction avec les autres représentants du genre Homo déjà hors d'Afrique ont été bien plus long qu'on ne le croyait. Cette période vient également corroborer un modèle selon lequel des hommes modernes auraient émigré d'Afrique il y a plus de 220 000 ans. Nous reviendrons plus longuement sur cette découverte mardi dans la Une. Après la brebis de lit, des chercheurs ont réussi à cloner des singes nés à l'Institut des neurosciences à Shanghai. Les deux macaques crabiers se nomment Zhong Zhong et Wawa, beaucoup plus complexes que le clonage d'un mouton. Celui des deux singes a mis 20 ans à voir le jour. Pour cela, l'équipe a utilisé des noyaux de cellules fœtales et des modulateurs épigénétiques. Au-delà de la prouesse technique, ce clonage est annoncé par les Chinois comme un atout pour la recherche. Il soulève néanmoins de nombreuses problématiques éthiques comme le traitement des animaux dans la recherche, mais aussi la faisabilité du clonage humain. Et puis l'horloge de l'apocalypse remontée à minuit moins 2, inventée en 1945 par des chercheurs du projet Manhattan. Elle dénonce le danger d'une catastrophe globale du fait des menaces nucléaires, écologiques et technologiques. L'aiguille n'avait jamais été aussi proche de minuit, heure symbolique de la catastrophe depuis 1953, année pendant laquelle les États-Unis et l'URSS testaient la bombe à hydrogène. Le bulletin des scientifiques de l'atome, composé d'experts sur ces thématiques et qui gère l'horloge, met en cause les essais nucléaires nord-coréens et l'imprévisibilité du président Trump. Il critique également le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, alors que les émissions de gaz à effet de serre sont toujours en hausse. Allez, notre club dans un instant.
Pourquoi Napoléon mettait la main dans dans son giron. On nous cache tout, on nous dit rien. L'affaire Trucuchet, l'affaire Machin, dont on ne retrouve pas l'assassin. On nous cache tout, on nous dit rien. On nous cache cachis, cache tampon. Colin Maillard et Tartampion, ce sont les rois de l'information. On nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien.
Et la voix de Jacques Dutronc sur France Inter.
La tête au carré, le club.
Et au menu de notre club cet après-midi, des scientifiques artistes avec un rendez-vous Art et Sciences. Ce sera le week-end prochain. Et puis deux astronautes qui ont tutoyé ensemble les étoiles. Donc mes invités Jean-Marc Chomaz et Samuel Bianchini. Et puis l'astronaute américain Scott Kelly et son confrère français Jean-François Clairvoy. Vous nous rejoignez avec vos messages, toutes vos questions, franceinter.fr. Et le mot-clé, l'attaque. On va donc commencer avec ce rendez-vous Art et Sciences. Ce sera donc vendredi prochain à la Cité Internationale des Arts à Paris. C'est dans le 4e arrondissement. Sous-titre donc de ce rendez-vous, nous ne sommes pas le nombre que nous croyons être un événement pour imaginer demain, c'est comme ça qu'il est présenté, et qui sera ouvert au public pendant 36 heures en continu, c'est gratuit. Samuel Bianchini, vous êtes artiste et enseignant-chercheur, et puis Jean-Marc Chomaz, vous êtes artiste-physicien. Vous avez donc toujours entremêlé vos disciplines en tant que scientifique ?
Toujours, dans le sens où la science est d'abord de la créativité, de l'imagination, et il y a une erreur de la présenter seulement par le côté rationnel. Donc, il faut aller dans ce côté sensible, et Art et Sciences, c'est vraiment approcher les sciences du côté sensible.
Ouais, et en tant que physicien, comment ça peut se concrétiser, alors, par exemple ?
Pour moi, c'est le même domaine, donc ça peut se concrétiser. Donc, une des installations qui a déjà été mentionnée juste tout à l'heure, qui est une installation sur la planète Saturne, où il y a un grand hexagone blanc, et dans l'événement, il y aura un travail avec deux artistes qui vivent à Amsterdam, Evelina Domnic et Dimitri Gelfand, sur une installation qui met en scène, c'est-à-dire qu'on va pouvoir survoler dans l'événement, comme si on était autour de la Terre, autour de Saturne, une planète imaginaire de laboratoire, mais transformée pour que ça devienne justement une approche sensible.
Jean-François Clairvoy, le voyage vers Saturne, pour l'homme, c'est pas pour demain quand même. Hein, on a déjà beaucoup de mal à partir sur Mars.
Assez loin, mais l'Europe a posé la sonde la plus éloignée de l'histoire de l'astronautique, puisqu'on a posé, il y a maintenant 13 ans, à 1,4 milliard de kilomètres, on a posé la sonde Huygens avec une précision de l'ordre du kilomètre sur Titan.
Ouais, mais c'était une sonde sans homme. Hein,
c'était une sonde sans homme. Mais évidemment, à bord de cette sonde, il y a un CD avec des messages et des dessins de tous les humains qui voulaient contribuer.
C'est ça.
Mais bon, on ira peut-être un jour. Mais vous savez, l'art de la BD, du cinéma, fait énormément de bien pour faire connaître l'espace.
Ouais, et puis là, du coup, on a les artistes justement qui nous font voyager avant même que la technologie puisse nous le permettre un jour. Samuel Bianchini, vous êtes artiste et enseignant-chercheur. Hein. Qu'est-ce que vous enseignez exactement, alors ?
Je suis artiste, enseignant-chercheur et je travaille principalement sur les dispositifs interactifs. Donc ça va des installations interactives en passant par les smartphones, mais aussi la robotique et aujourd'hui beaucoup les nouveaux matériaux. Et en fait, tous ces champs nécessitent vraiment un investissement pluridisciplinaire.
Ouais, qu'est-ce qui vous a sensibilisé, vous, justement, à ce lien entre l'art et la science ? Pourquoi est-ce que vous travaillez autant sur la connexion des deux domaines ?
Alors peut-être qu'il y a un élément qu'on oublie souvent dans art et science, mais je crois que les techniques jouent un rôle assez conséquent. En fait, elles sont partout aujourd'hui dans nos sociétés et elles sont aussi très présentes, évidemment, dans les relations entre art et science, sachant que quand on parle de science, il ne faut pas parler que des sciences naturelles, mais il faut aussi évidemment prendre en compte les sciences humaines et sociales.
Ouais. Alors justement, faire dialoguer les arts et les sciences dans tous les domaines, hein, de préférence, c'est aussi l'objectif de ce rendez-vous. Alors expliquez-nous un petit peu pour les auditeurs qui nous entendent, qui seraient à Paris le week-end prochain et qui pourraient aller vous rejoindre, donc dans le 4e arrondissement, ce qui va se passer pendant 36 heures non-stop.
Donc, il va se passer énormément de choses. Donc, c'est comme si on intégrait un grand organisme vivant. Et justement, un organisme vivant, c'est fait de plein de cellules. On est plus nombreux que ce que l'on pense. Et donc, c'est exactement cette proposition-là. Mais il y aura, on peut participer, on peut créer la recherche, participer à la recherche, à la fois scientifique, artistique. On peut voir des installations. On va présenter, par exemple, une installation qui écrit dans le brouillard des messages qui ont été écrits par une école, par des enfants d'une école, et qui vont écrire, imprimer dans le brouillard, lettre à lettre, des poèmes
poème écrit par ses enfants de cette école.
Ouais, écrire dans le brouillard, ça se fait comment? Alors, technologiquement parlant, là, soyons un peu terre à terre, mais...
C'est comme une grande machine climatique. Moi, il y a beaucoup de travaux, justement, à Ré-Sciences qui font référence au climat. C'est-à-dire, c'est justement comment on s'approprie cette question et comment on se met à l'action tous ensemble. Donc, être beaucoup plus nombreux à l'action que ce qu'on pense. Et pour écrire dans le brouillard, c'est... comme une grande soufflerie, et il y a différents modules, il y a 16 petits modules qui vont pouvoir, à leur tour, émettre du brouillard. Donc c'est comme si on avait une matrice 4x4, et cette matrice 4x4 peut écrire des lettres, et la séquence de lettres qui vont être faites que de brume, que de nuages, va écrire un texte.
Alors, donc ça, ce sera ce qu'on pourra voir, entre autres, hein, parce qu'il y a énormément... Il y a combien d'artistes qui viennent vous rencontrer sur place?
Il y a 300 invités, il y a une centaine d'étudiants en plus, donc il y aura déjà un organisme très très vivant, et on va embarquer l'ensemble du public dans cette machine. Ouais, il va se faire embarquer par le train.
C'est ça, le but c'est de voir, mais c'est de ressentir aussi très très fort les choses, Samuel Bianchini, c'est ça? C'est de pouvoir vraiment percevoir concrètement avec nos sens.
Je crois que cette relation entre art et science, du côté des arts, peut-être qu'il y a un point qui est extrêmement naturel et important, c'est qu'on est très soucieux toujours de la relation au public, et ce qui est parfois moins le cas avec les sciences qui s'adressent souvent surtout à leurs pairs. Et donc dans cette articulation entre art et science, c'est une possibilité d'embarquer justement, comme le disait Jean-Marc, le public, et donc non pas de donner à voir, restituer des choses qui auraient déjà été faites, comme on l'a dans la plupart des musées, mais plutôt d'embarquer dans un processus collectif commun où on fait ensemble, on développe ensemble, on partage.
Donc vous allez travailler autour de thèmes comme l'environnement, les technologies, l'énergie, la mondialisation, ça fait partie vraiment des thèmes qui vous inspirent et sur lesquels on peut réfléchir tous ensemble.
Oui, il y a pas mal de choses. Par exemple, nous, on va aussi organiser la fête. Quand je dis nous, c'est l'ENSAD Lab, le laboratoire de l'ENSAD. On organise la fête qui va avoir lieu donc dans cet événement, qui est une fête qui s'appelle Discontrol Party et qui est un dispositif interactif pour faire la fête et qui, en quelque sorte, provoque les technologies de contrôle et de surveillance en les inscrivant dans un espace festif. Et on voit bien que plus les gens finalement font la fête et moins ils respectent les normes sociale, corporelle, et plus finalement ils mettent à mal ces technologies de contrôle et de surveillance. Donc une sorte comme ça d'organisation à la fois drôle, humoristique, mais en même temps sur des sujets très sérieux qui sont précisément les données personnelles et comment échapper à ce système de contrôle et de surveillance généralisé.
Jean-Marc Chomaz, parlez-nous du scaphandre martien, parce que ça va intéresser nos invités astronautes Scott Kelly et Jean-François Clairvoy.
Voilà, c'est un projet étudiant en fait où ils ont vraiment conçu un scaphandre martien. Ils viennent de passer 15 jours dans le désert de l'Utah, dans le centre d'études pour Mars, et à tester ce scaphandre. Et là, la proposition pour décaler un petit peu les choses, c'est qu'ils vont déambuler dans l'espace de l'exposition, et le public pourra interagir avec eux, mais avec en temps décalé, comme les ondes radio vont mettre 3 minutes, par exemple, pour aller sur Mars, ça sera en décalé pour mettre tout d'un coup comme s'ils étaient vraiment dans un autre espace. Donc ça, c'est une des toutes petites propositions, un peu en clin d'œil, un peu en auto dérision d'avoir un scaphandre qui vient se promener au milieu d'installations artistiques, de grands débats, et lui il est très décalé parce qu'il est sur sa planète.
Alors ça, j'ai posé la question évidemment à Scott Kelly, c'est plutôt intéressant d'avoir des citoyens lambda qui vont pouvoir tester donc la vie martienne quasiment, hein, comme si on y était au fond.
Yeah, I think it's great any time you can get young people involved.
Oui, en tout cas, c'est chouette de montrer la science aux jeunes, notamment de manière interactive. Le fait d'aller vers Mars, c'est quelque chose qui stimule pas mal de jeunes. C'est une source d'inspiration et ça les amène peut-être à étudier avec un peu plus de sérieux la science.
Pourquoi on va dans le désert de l'Utah aujourd'hui aux États-Unis pour préparer Scott Kelly précisément ses futurs voyages martiens? Pourquoi c'est un endroit de choix pour essayer d'éprouver les conditions
martiennes?
Je ne suis pas spécialiste de la question. Moi, je n'ai pas passé de temps à tester des scaphandres dans le désert de l'Utah, je vous l'avoue, mais j'imagine que le désert de l'Utah ou d'autres endroits du monde proposent des conditions similaires à celles que l'on pourrait connaître là-bas. Il y a pas mal de sable, très peu de vie, ou pas de vie, c'est peut-être là que s'arrêtent les similitudes, parce que pour autant que l'on sache, il y a un tiers de la pesanteur, celle qu'on trouve sur Terre, mais c'est vraiment l'environnement le plus
proche
ils
de celui de
Mars. Ils respectent aussi l'isolation, en fait. Ils respectent le fait qu'ils sont... sauf si quand ils sortent dans le désert, ils sont en isolation dans une
très confinement.
Un confinement, voilà.
Ouais. Jean-François Clairvoyt. Donc voilà, on a des terrains sur Terre. Hein, on peut déjà se préparer.
Rio Tinto, ouais. Où Curiosity, le robot américain, a été testé. C'est très acide, la poussière est très très fine, c'est rouge. On a identifié plusieurs, ce qu'on appelle space analogues. Sur Terre. Et selon la mission, on teste à l'Utah. On envoie parfois des astronautes, effectivement, simuler les conditions martiennes. Mais Scott a utilisé un space analogue très connu, c'est l'eau, pour simuler les sorties dans l'espace.
Oui, on en parlera avec lui tout à l'heure. Donc ça fait partie des exemples et des choses qu'on va pouvoir tester. Dans le domaine de la musique, il y a une harpe aussi, je crois, qui est au programme.
C'est pas vraiment une harpe. En fait, l'organisation de l'événement, l'organisation générale, se fait à partir d'un ensemble de nouvelles d'Ursula Le Guin, qui nous a quittés récemment. Et donc, chaque nouvelle est prise pour organiser un atelier. Et donc, il y en a une qui s'appelle la harpe de Guyliane. Et c'est effectivement un atelier que l'on va organiser avec les arts déco et qui est autour ce qu'on appelle des objets à comportement, c'est-à-dire des objets robotisés qui sont pas de forme humaine, pas de forme animale, et donc qui sont de forme abstraite, mais qui, dans leur façon de bouger, donnent le sentiment d'être animé d'une vie, d'avoir une personnalité. Et pour ça, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, on va organiser des ateliers avec des enfants aussi, c'est-à-dire comment des enfants peuvent concevoir des objets qui bougent et qui, dans leur façon de bouger, justement, vont avoir un caractère particulier, une personnalité, avec un prototype, donc avec un prototype de kit de robotique modulaire pour faire ça.
Et donc ce disque contrôle parti pour faire la fête avec les DJ. Hein,
voilà, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Donc une fête dans un dispositif de contrôle et avec cette relation un peu presque conflictuelle, mais sur le mode de l'humour, qui fait qu'à mesure que les gens font la fête, finalement ils mettent en péril ces systèmes de contrôle.
Et on pourra croiser Bruno Latour au hasard peut-être de cette soirée DJ aussi, qui sait.
Peut-être parce qu'il intervient juste avant.
Il est capable de le faire.
Oui, tout à fait.
Ouais. Il sera là pour une conférence.
Oui, il vient pour une conférence
sur quel thème
avec Pierre-Damien Huyghe. Ils vont débattre justement de problématiques de plus comment faire dans un contexte pluridisciplinaire et en particulier à partir de la recherche en art et en design. Donc ouais. Un débat entre lui et Pierre-Damien Huyghe.
Voilà, c'est donc vendredi et samedi prochain. C'est gratuit, 36 heures en continu à la Cité internationale des arts, donc à Paris. C'est 18 rue de l'Hôtel de Ville. Est-ce qu'on doit rajouter quelques infos pour s'y préparer et le noter?
Ça va être génial.
Bon,
nous on attend avec impatience.
Avec un site internet qui est en lien évidemment sur La Tête au Carré pour ceux qui souhaitent en savoir plus et vous rejoindre. Vous restez avec nous, Jean-Marc Chomaz et Samuel Bianchini. On part dans l'espace dans un instant avec l'homme qui comptabilise le plus grand nombre de jours justement auprès des étoiles, c'est Scott Kelly.
along the feeling.
Lonely Feelings, c'était Jimbo à l'instant. Il s'appelle Scott Kelly, il a effectué 4 séjours dans l'espace, dont le dernier de 340 jours, donc presque une année. Il a un jumeau astronaute, ce qui est unique dans les annales du spatial. Scott Kelly publie aux éditions Les Arènes Mon Odyssée dans l'espace. Il est en direct aujourd'hui dans le club avec son camarade spationaute français Jean-François Clairvoy. C'est Xavier Combes qui assure la traduction de cet entretien. Scott Kelly, vous êtes donc astronaute et ingénieur à la NASA. 4 séjours dans l'espace, vous avez commandé l'ISS pour 3 expéditions. Vous avez participé à cette mission ultra longue d'un an à bord de l'ISS, 340 jours donc entre le 25 mars 2015 jusqu'au 1er mars 2016. C'est donc vous qui comptabilisez le plus grand nombre de jours dans l'espace. Est-ce que maintenant, après plus d'un an évidemment de votre retour, presque deux de cette mission sur l'ISS pendant un an, vous avez totalement récupéré physiquement de ce voyage?
Well, symptomatically, yes. I think
there's symptomatique, on pourrait dire que oui.
I don't feel anything as a result of being in
je
space
ne sens
for that
pas
period
de conséquences.
I do have some structural changes in my eyes.
Il y a néanmoins dans mes yeux quelques changements structurels qui se sont opérés. Et bien entendu, dans l'espace, on subit pas mal de radiation. Cette radiation pourrait pourrait être source de dégâts. Le corps se répare par lui-même, mais je ne saurais pas les effets à très très long terme, pas forcément du moins.
Ouais, ça c'est quelque chose qui vous inquiète en tant qu'astronaute ou finalement vous prenez les bulletins sanitaires avec beaucoup de distance?
Je ne m'attache pas aux détails des choses que je ne peux pas maîtriser.
The only time I ever think about, like, the effects of
parfois,
radiation,
je pense à l'effet de la radiation.
Is when people ask me the question.
Et je pense à ma longévité, mais je ne pense qu'à ça que lorsqu'on me pose la question.
Ouais, et Jean-François Clairvoy, quand on vous pose la question, vous, qu'est-ce que vous répondez?
Sur les
effets? Sur votre santé de
bipède? Dans mon cas, c'était des vols courts en navette spatiale. Et donc, rapidement, au bout d'une semaine, on se sent normal. Les médecins nous disent, vraiment, c'est peut-être un peu plus. Mais il n'y a aucun effet reconnu scientifiquement de longue durée sur la physiologie du corps humain après des vols courts comme ceux que j'ai effectués dans l'espace.
Scott Kelly, on va écouter justement une archive de 2016, donc c'était le 1er mars, à votre retour sur les plaines du Kazakhstan, avec la voix d'un journaliste qui va commenter justement votre retour, et c'est Xavier Combes qui va nous en faire la traduction.
Scott Kelly vient de passer 340 jours en l'espace, il revient sur la planète Terre.
Cosmonaut heritage that has spanned several decades of Russian space history.
Il y a eu plusieurs décennies d'expérience de cosmonaute soviétique. Le voici, c'est la matinée, nous sommes au Kazakhstan. Il respire profondément, il profite de chaque seconde et de chaque pas sur Terre.
Voilà, c'est donc votre retour. Alors comment on se sent justement, alors non seulement quand on a passé un an dans l'ISS, mais surtout quand on arrive comme ça sur Terre, après avoir traversé l'atmosphère, on est dans un état un peu second, non ?
Well, initially you don't feel great.
Au tout début, on se sent pas super bien.
When I got out of the capsule, I had a big smile on my face.
Quand je suis sorti de la capsule, j'étais tout sourire.
That's not because I was feeling particularly well.
Non pas parce que je me sentais particulièrement bien, mais j'essayais de faire mieux que mes deux comparses, mes deux autres cosmonautes. Ils avaient l'air j'ai fait un peu la comédie, j'avoue.
Mais
au début, je me sentais raide. Et quand je me tenais debout, je sentais le sang qui coulait de mon sang vers mes pieds. J'avais des démangeaisons. je n'avais rien touché depuis très longtemps, donc ça a été très bizarre. Les sensations tactiles, j'avais un peu le vertige, j'avais la nausée, j'avais des symptômes similaires à ceux de la grippe. Mais maintenant, je vous parle et je me sens beaucoup mieux.
Oui. C'était très différent de vos trois précédents voyages, cette mission extrêmement longue d'un an, Scott Kelly, sur vos ressentis une fois sur Terre.
Oui, l'expérience est tout à fait différente. J'avais fait un vol de 159 jours auparavant. Grosse différence entre les deux vols. Il semblerait que les jours par rapport aux symptômes, ça décrit une courbe différente. Alors, où est-ce que la courbe s'infléchit? Où est-ce que le changement est le plus marqué? À partir de quel seuil de durée? Mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit Jean-François précédemment. Il a expliqué que la première fois où j'ai participé à une mission, il a expliqué qu'il avait caché tous mes slips, a-t-il dit. Mais
il allait faire des slips qui reprend.
Je réponds. Il ne savait pas qu'il ne faisait que me préparer à un an de séjour dans l'espace, parce que j'ai pas souvent changé de slip, Jean-François.
Oui, c'est ça. Il faut prendre le minimum d'affaires, Jean-François Clairvoyant, quand on part comme ça pour un long séjour spatial.
Oui, mais vous pouvez. Il n'y a pas de machine à laver le linge à bord de la station spatiale, mais. Mais je sais que Scott, dès le premier vol, il a montré son engagement à vouloir être parfait. Pas d'erreur, on avait un commandant de bord très exigeant. Il a tellement été parfait lors de son premier vol qu'il a obtenu d'être commandant de bord dès le deuxième, ce qui est extrêmement rare.
Ouais. Donc quand les nouveaux arrivent comme ça dans l'espace, comme c'était le cas de Scott Kelly, hein, puisque vous, c'était votre troisième voyage, donc il y a tout un travail de transmission justement de l'expérience de l'autre.
Non, en fait, il était très bien entraîné, on n'a rien eu à lui enseigner. Il faut savoir que dans son premier vol, il est en place droite dans le cockpit, il a accès aux commandes des systèmes les plus critiques lors du lancement, où personne peut lui taper sur la main pour lui dire « touche pas à cet interrupteur ». Donc, il doit gagner notre confiance. Il l'a gagné, à tel point qu'il était commandant de bord au deuxième vol, je vous dis. Donc,
ouais. Scott Kelly, quel surnom vous avez donné à Jean-François Clairvoyant, d'ailleurs, vous le racontez dans votre ouvrage?
Well, I didn't give him this nickname. C'est pas moi qui lui ai donné le surnom. Ce surnom lui est arrivé lorsqu'il est arrivé.
Jean-François has a twin brother.
Jean-François a un jumeau.
He may be impressed that I actually remember this.
Il est peut-être impressionné que je m'en souvienne. Quand ils ont grandi,
Western movies,
ils regardaient des westerns
américains.
Et ils aimaient bien Billy the Kid. Jean-François et son frère ne s'appellent pas Jean-François et je ne sais plus le prénom de son frère, mais
Patrick.
Ils s'appellent entre eux.
They call each other Billy.
Billy.
As if that's their first name,
voilà,
each other.
Comme si tous les deux étaient prénommés Billy. NASA, donc, il arrive à la NASA, Jean-François, à Houston.
People really can't pronounce
et les gens à Houston ont du mal à prononcer Jean-François. Donc, Billy, par contre, Billy, c'est facile à dire Bob. Pour un Texan. Donc, il est devenu Billy Bob.
Voilà.
Un petit côté Texan.
Is that correct?
Billy Bob, c'est ça. C'était votre côté Texan, là, tout d'un coup, Jean-François Clairvoyant. Il y a cette question de Loïc qui arrive sur franceinter.fr, Scott Kelly, qui vous demande quelle est la transformation physique ou psychologique, d'ailleurs, la plus significative devant pendant ce voyage là d'une année.
So going to space or coming back to Earth?
Pour lorsque je reviens sur Terre ou lorsque je pars dans l'espace?
Ben pendant votre séjour, qu'est-ce qui s'est passé physiologiquement de très marquant?
What was most striking? You know, what's initially most striking is that, you know, in the absence of gravity, all the fluid
la pesanteur disparaît et le sang remonte à la tête.
Your head swells.
Ainsi, la tête grossit. Il y a un petit peu de congestion. Alors ça, c'est assez frappant. Et puis le vertige, c'est ça qui vous frappe initialement. Mais plus on passe de temps dans l'espace, moins on sent cela.
Mais
ça ne disparaît pas complètement. Même après 340 jours, je ne me suis jamais vraiment senti moi-même. Alors, pour répondre à la question du point de vue psychologique, alors il y a ce que les astronautes dénomment comme une espèce de perception du monde qui change. On ne voit pas les frontières politiques de la planète. On entend les nouvelles qui viennent de la Terre. Ce sont des mauvaises nouvelles. Et c'est en contraste avec ce que l'on vit. Donc la plupart des gens qui ont fait des séjours dans l'espace et qui ont vu la Terre depuis l'espace disent que cela ne fait qu'accroître votre empathie. Ça vous rend plus à même de comprendre la condition humaine.
Ouais. Est-ce qu'on a une sensibilité accrue justement du fait de l'éloignement de la Terre ferme par rapport à ces informations un peu anxiogènes dont vous parliez là il y a un instant?
L'empathie, je dirais qu'on devient plus empathique. Il y a des conflits sur Terre. Il y a les problèmes liés à l'environnement. Alors, la Terre est magnifique vue du ciel. Néanmoins, il y a certaines régions du planète qui sont couvertes de pollution. On voit à quel point l'atmosphère est fragile. Et il y a des indications, des traces du changement climatique, du dérèglement climatique que l'on voit de l'espace. Et dans les esprits scientifiques reconnaissent à n'en pas douter que c'est la seule planète que nous avons à disposition. On ne peut pas avoir des milliards d'êtres humains sur Mars. Peut-être qu'un jour, on ira voir ce qui se passe sur Mars, mais nous devons nous occuper de notre planète aujourd'hui. C'est une crise que nous vivons. On en parlait plus tôt dans le début de l'émission, avec cette géographe qui nous parlait des phénomènes de crue qui sont des problèmes graves auxquels nous devons nous attaquer. Et ce sont des problèmes liés en partie au changement climatique. Ce sont des problèmes qui méritent qu'on s'y attache tous ensemble, tous autant que nous sommes. Et en tant qu'Américain, moi, je... C'est tout à fait malheureux que notre pays se soit retiré des accords de Paris. C'est très triste. Avant, les États-Unis étaient à l'avant-garde des efforts, des recherches scientifiques, de la logique scientifique et tout ça. Ce n'est plus le cas du tout.
En tout cas, Magali Regeza, elle n'a pas vraiment fait d'ailleurs le lien direct entre le réchauffement climatique et les crues en ce moment en France, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs environnementaux aujourd'hui qui peuvent jouer. On se retrouve dans un instant, Scott Kelly, Jean-François Clairvoix et puis Jean-Marc Chomaz et Samuel Bianchini qui sont ces amateurs d'art et sciences. C'est le club de la tête au carré. Dimanche, c'était The Limananas, à l'instant.
2, 1.
Le club sur France Inter.
L'astronaute Scott Kelly, donc, dans le club cet après-midi, mon odyssée dans l'espace, 340 jours en orbite aux éditions Les Arènes avec son camarade Jean-François Clairvoix et puis Samuel Bianchini et Jean-Marc Chomaz pour parler art et science. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec vous. Samuel Bianchini, d'ailleurs, vous aviez une remarque à faire à Scott Kelly tout à l'heure.
Oui, je me disais, Scott parlait tout à l'heure du fait qu'il réfléchissait sur les conditions de l'humanité avec cette distance, et c'est vrai que on peut se dire que cette distance physique, finalement, implique une distance de réflexive. Et Jean-François, à l'instant, on discutait et disait qu'en fait, ils devenaient presque anthropologues, en fait. Ils étaient presque amenés à réfléchir sur les conditions de l'humanité et ce qu'est l'homme, finalement, avec cette distance qui s'impose.
Et vous me disiez, il faudrait envoyer des anthropologues dans l'espace.
Exactement,
aussi.
Exactement, je trouve que ça serait très intéressant de pouvoir amener les sciences humaines et sociales à cet endroit-là, justement, pour et des sociologues, et anthropologues avec cette distance. Et en plus, je pense qu'il y a une chose, je ne suis pas sûr de ça, mais je pense qu'on a du temps aussi, et c'est précieux aujourd'hui.
Ouais. Scott Kelly, est-ce qu'il y a des travaux d'ordre psychologique ou sociologique qui ont été menés entre vous et votre frère jumeau, Marc? Parce qu'il faut rappeler que pendant cette mission d'un an, vous étiez tous les deux des objets de science. Lui à terre et vous dans le ciel.
Yeah, so there were a bunch of different studies... that were part of this twin study.
Il y a toute une série d'études qui ont été menées sur mon frère jumeau et moi.
You know, the biggest result was they found that after spending years,
le plus grand résultat qu'on a trouvé, c'est celui-ci. Après un an de séjour dans l'espace, je me suis retrouvé beaucoup plus intelligent et beaucoup plus beau que lui, quand
même. Et plus jeune, et plus jeune aussi, non?
And slightly younger,
légèrement plus jeune,
like
15
milliseconds,
on va dire 15 millisecondes plus jeune que lui.
C'est ça. Ouais. Mais d'un point de vue de...
Si on prend la théorie de la relativité d'Einstein, on arrive à ça. 15... Ce sont les plaisanteries. Nous avons fait des tests cognitifs. Nous avons fait des tests liés à notre performance mentale. Mon frère servait donc d'étalon.
Sur Terre, en l'occurrence. Et du point de vue de la génétique, il y a aussi des travaux qui ont été menés sur vos deux corps, l'un en apesanteur et l'autre avec votre frère.
Yeah, that was the larger part of the
study. Oui, du reste, cela constitue la plus grande partie de l'étude. La NASA avait donc pour la première fois cette possibilité de faire des études génétiques sur deux sujets. L'un, qui était moi, qui constituait l'objet de l'étude scientifique, et mon frère, Estiater, qui était la référence, l'étalon. Certes, l'échantillon est faible. Néanmoins, les données sont intéressantes. Par exemple, les télomères constituent l'extrémité des chromosomes, eh bien, mes télomères se sont allongés par rapport à ceux de mon frère. On n'y pensait pas. Par ailleurs, l'expression génétique s'est exprimée différent. L'ARN, le DNA, l'ADN se déclenchait plus rapidement que chez mon frère. Donc là, il faut mener d'autres recherches pour en savoir davantage, mais il y a certaines indications fort intéressantes.
Oui, alors ce qui est incroyable, c'est qu'autour de cette table, j'ai quatre invités, dont trois qui ont des frères jumeaux. Alors ça, c'est probablement la première fois que ça arrive. Scott Kelly, donc, en l'occurrence. Jean-François Clairvoix, vous aussi, vous avez un frère jumeau.
Oui, Patrick, donc Patrick psychiatre.
Mais qui n'est pas astronaute.
Et médecin.
Oui. Et Jean-Marc Chomaz.
Oui, Philippe, qui est aussi scientifique, mais il ne fait pas art. Et je pense aussi que art, ça rend plus intelligent et plus beau comme partir dans l'espace.
Ah, oui. Donc, il n'est pas physicien?
Si, il est physicien.
Ah, il est physicien aussi
au commissariat à l'énergie atomique. Il est très dans la physique de la très grande échelle, les deux infinis. Et moi, je fais la physique entre les deux infinis, mais il y a une certaine place.
Donc, vous êtes tout à fait complémentaire. Tous les deux. Adrien sur franceinter.fr, Scott Kelly nous demande quelles sont les innovations qui vous semblent les plus urgentes dans les habitats spatiaux pour les astronautes.
Well, the question I would ask is for what mission.
Mais tout dépend de la nature de la mission. S'il s'agit d'aller vers Mars ou sur Mars,
primary
je crois que
concern is radiation.
La radiation, le rayonnement, constitue la plus grande préoccupation. Il faut protéger les astronautes de la radiation, donc ça c'est un défi, c'est pas un problème insurmontable d'ailleurs. Pour la station spatiale internationale actuelle, et du reste j'en parle dans mon livre, bien souvent on a des problèmes de dioxyde de carbone. Si moi je pouvais prendre des décisions pour décider quelles innovations étaient les plus urgentes, moi je dirais ben, ça justement, les niveaux de dioxyde à bord de la station spatiale internationale.
Et pour vous Jean-François Clairvoix, ce serait quoi finalement les améliorations apportées d'urgence?
Oui, sur le plan technique, c'est les protections contre les radiations, c'est augmenter la performance des techniques de recyclage. On recycle par procédé physico-chimique le gaz carbonique, l'urine, l'eau de condensation de la respiration, de la transpiration, pas encore les déchets solides, mais surtout la propulsion. Mais la station spatiale, c'est un laboratoire de recherche, surtout de physiologie humaine, d'apesanteur, de... Mais il faudrait améliorer les techniques de propulsion ou innover pour pouvoir aller vers Mars en quelques semaines et pas plusieurs mois.
Ouais. Les physiciens travaillent là-dessus d'ailleurs, hein, Jean-Marc Chomaz, aujourd'hui, pour inventer déjà dans les laboratoires des modes de propulsion beaucoup plus rapides.
Oui, ils sont d'autres moteurs, des moteurs électriques à plasma, des choses comme ça.
D'ailleurs, le moteur à plasma le plus avancé à ce jour en laboratoire, qui pourrait donner naissance au premier moteur à plasma opérationnel, c'est un astronaute qui l'a inventé. Un astronaute costaricain et américain qui s'appelle Franklin Chang Diaz et dont un module prototype est prévu d'être amené dans la station pour des essais dans les années qui viennent.
Absolument, on en parlera d'ailleurs très prochainement dans l'émission. Est-ce que vous pourriez, demander à Scott Kelly de confirmer que la Terre est bien ronde pour instruire les 10% de Français qui pensent qu'elle est plate? Ça, c'est très utile, effectivement, mais personne ne va vous croire. Enfin, les 10% ne vous croiront pas, mais enfin, vous pouvez quand même nous apporter des informations. Vous avez bien vu la Terre ronde depuis la Station Spatiale Internationale, il n'y a pas de doute là-dessus?
I've seen it over 4,000 times. I've gone around it over 4,000 times.
J'ai fait le tour 4,000 fois. Je peux vous dire, elle est ronde. Si elle n'était pas ronde, d'ailleurs.
Here's the thing about this whole flat Earth thing.
C'est un sujet intéressant, la Terre plate.
I think some of the people.
Je crois qu'il y a des gens.
Do this as a hobby.
Qui font ça comme violon d'âne. Ces théories de la conspiration, c'est un peu comme une blague qu'ils aiment bien entretenir. Mais parmi les gens qui croient que la Terre est plate, bien qu'on ait des millions de preuves pour leur démontrer le contraire, ça montre que il y a de la remise en question d'autres faits scientifiques comme le dérèglement climatique. Ça crée une espèce d'ambiance du théorie de la conspiration. Donc, c'est un peu une farce, les gens qui s'amusent à faire ça. Mais ça a un effet délétère parce que ça encourage d'autres personnes à remettre en question d'autres aspects de la connaissance scientifique. Et ça, c'est vrai pour le changement climatique en particulier. Alors, la liste est longue, je donne celui-là comme exemple, mais en tout état de cause, c'est dangereux et c'est irresponsable. Mais si la Terre était plate, le bord, ce serait quand même une destination touristique formidable. On irait, on regarderait l'espace du bord. Moi, j'aurais une résidence secondaire, là, j'y habiterais.
Ce serait mieux que les chutes du Niagara, certainement. En tout cas, parmi les conspirations, les théories du complot, il y a celle qui revient régulièrement, comme quoi les hommes n'auraient jamais posé le pied sur la Lune. Hein, Scott Kelly, ça fait aussi partie des grosses blagues permanentes, non?
Yeah, that's another conspiracy theory.
Ah oui, toujours pareil, la conspiration, le complot. On était en concurrence avec l'Union soviétique à l'époque, évidemment.
And they were watching everything we were doing.
Et ils regardaient de très près tout ce que nous faisions aux États-Unis. Et si on n'y était pas arrivé, on pourrait se dire que la théorie du complot passerait de l'autre côté. Bon, Jean-François et moi, on connaît pas mal de gens qui ont participé au programme Apollo, et Jean-François sera sans doute d'accord avec moi pour dire que ces gens-là ne pourraient jamais garder un secret comme ça. C'est impossible.
Vous les connaissez bien, ces hommes.
Good friend John Young who disappeared, who left us.
Vous pouvez parler français, Jean-François, pour nous.
Oui, notre ami John Young qui nous a quittés il y a environ 2 semaines et qui était notre grand héros, que j'ai eu comme instructeur dans la navette, avec qui je volais en T-38. Quand je volais pas avec Scott.
John Young said to me one time, he goes, you know, Scott,
I did not. John Young m'a dit, tu sais, Scott, moi j'ai pas marché sur la Lune, j'ai travaillé sur la Lune.
Et en tout cas, vous racontez qu'à l'âge de 5 ans, vous étiez devant votre téléviseur avec votre frère jumeau Marc, pour voir justement ce moment où les premiers hommes ont posé le pied sur la Lune et que ça a été pour vous vraiment un moment extrêmement saisissant. Scott Kelly, pour terminer très rapidement, votre livre, c'est aussi finalement très encourageant pour tous les mauvais élèves qui, comme vous, pourraient avoir des rêves et qui un jour pourront les réaliser. C'était mal parti, votre parcours.
Yeah, so my, you know, my book that just came out here in France, or I think maybe tomorrow.
Mon livre qui sort en ce moment en France.
It is not only a story about a guy that spent a year in space, but about a kid
l'histoire d'un homme qui a passé un an dans l'espace, mais c'est l'histoire d'un jeune qui n'était pas très fort à l'école, puis qui a par hasard vu un livre qui lui a changé sa vie, en fait.
Voilà, et on découvrira que ce livre, c'est l'étoffe des héros, en l'occurrence, et que vous avez même pu converser avec son auteur, Tom Wolfe, dans la Station Spatiale Internationale. Ça s'appelle « Mon Odyssée dans l'espace, 340 jours en orbite aux arènes ». Merci beaucoup Scott Kelly, merci Jean-François Clairvoy et Xavier Combes pour la traduction. Merci à tous.